Chapitre 40. 2 novembre 2010. Venez, m'a-t-elle dit. J'ai suivi la dame en noir jusqu'à chez elle, à 2 rues du cimetière, en silence. Elle habite un appartement dans un corps de ferme. À l'intérieur, ça sent le bois, la vache et le café. Elle a saisi la cafetière et m'a servi un fond de jus de chaussette tiède dans une tasse sale que je n'ai pas osé refuser. Elle a retiré son bonnet et sa veste, a chaussé des lunettes et noté sur l'enveloppe froissée d'un catalogue de vente par correspondance « Héloïse Cardine, 47 rue des Écoles, Sallanches ». Puis me l'a tendue en me regardant droit dans les yeux. Elle m'a fait penser à Suzanne Flon, à cause de la finesse de ses traits et du demi-sourire qui a illuminé son regard. Elle ne m'a rien demandé, elle m'a simplement souhaité une bonne journée. Savait-elle qui j'étais? Avait-elle compris ma question? Quel rapport entre Marie et cette Héloïse? Entre nous, tout s'est passé dans le silence. Sallanches est à 20 km de Flumet. Je n'ai pas eu envie de retrouver Liesse pour récupérer les clés de la voiture. Il ne m'aurait pas laissé y aller seul. Il devait être avec Lynn, et je me suis dit que pour une fois qu'il était en paix avec une femme adorable, j'allais le laisser tranquille. Alors je suis retournée dans le restaurant où nous avions déjeuné et j'ai demandé à la serveuse si elle connaissait une compagnie de taxi. Elle a appelé un ami, qui est arrivé 5 minutes plus tard dans un genre de Range Rover. Quand je lui ai donné l'adresse, il a dit « C'est une maison pour les petits vieux, ça. Je fais souvent des courses là-bas. Vous pourrez m'attendre et m'emmener ensuite dans un endroit où on vend des téléphones, s'il vous plaît ?» Le chauffeur de taxi a raison. Le 47 est un établissement d'hébergement pour personnes âgées qui s'appelle « Tous les soleils », un peu comme le titre d'une série télé vintage. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas la mer. À l'accueil, je demande Héloïse Cardine, qui met longtemps à arriver. La jeune trentenaire, blonde aux yeux bleus, souriante et avenante, porte une blouse rose et sent la fleur d'oranger. Je me présente. Elle fait une drôle de tête quand je lui explique qu'une femme que je ne connais pas m'a donné cette adresse et son nom. Je l'ai rencontrée sur la tombe de la famille Mangel parce que je cherche une trace de Marie Roman. En guise de réponse, elle prononce la même phrase énigmatique que la dame en noir. « Suivez-moi. » Puis dans l'ascenseur, « Je vous ai déjà vu à la télé. Vous faites quoi déjà ?»«
Du cinéma. Je fais du cinéma. Enfin, je faisais. » »«
Ah, alors c'est pour ça !» répond-elle sans rien ajouter. Arrivés au 3e étage, nous longeons quelques couloirs, croisons des résidents accrochés à des déambulateurs, d'autres au bras d'une aide-soignante, puis Héloïse pousse une porte derrière laquelle une femme âgée est assise face à la fenêtre. Je repère tout de suite le fauteuil roulant dans un coin de la chambre. Pour la seconde fois de la journée, une chaleur insoutenable m'envahit, et je m'assieds sur le lit en murmurant « Je vous demande pardon, c'est l'émotion ». Une odeur d'hôpital et de chou-fleur me soulève le cœur. Héloïse me tend un verre d'eau. La dame tourne les yeux vers moi. Je vous présente Marie. Elle n'est pas inscrite sous le nom de Roman. Elle est sous protection judiciaire. Ici, elle s'appelle Amélie Andrieux. Je suis la seule à connaître sa véritable identité. Seule avec la police et Jeanne, sa sœur. C'est elle que vous avez rencontrée au cimetière de Flumet tout à l'heure.
Sa sœur ?
Héloïse s'approche de Marie, Amélie, et se penche vers elle pour lui parler à l'oreille. Cette personne vous cherche. Je crois que ça a un rapport avec votre fille. Le visage de Marie Roman s'illumine.
Mais comment vous savez ?
J'ai demandé stupéfaite à Héloïse. Lynn, la fille qui travaille à la mairie de Flumet, a téléphoné à sa mère. Il a téléphoné à Robert, qui est flic, pour lui poser des questions sur le fait divers. Et Robert m'a prévenu. Ici, tout se sait. Et Marie, enfin Amélie, est toujours sous protection judiciaire.
Mais enfin, il doit être mort.
Qui ? M'interroge Héloïse, surprise.
Soudoro ? Soudkovski ?
La vieille dame panique à l'évocation de ce nom. Elle s'agite et se met à gémir, émet quelques sons inaudibles et douloureux. Elle me fixe, terrorisée. Comment ai-je pu prononcer le nom de son tortionnaire? Comment puis-je me comporter aussi mal? Et que vais-je lui dire, lui annoncer?
Que sa fille est morte et enterrée depuis 3 ans à la place de ma tante? Mais nom de Dieu, qu'est-ce que je fous là? Je lui prends la main. Je vous demande pardon. Pardon de vous avoir effrayé, j'en suis profondément désolée. Elle se calme peu à peu. Me dévisage de longues minutes, puis murmure. C'est toi, Blanche? Blanche? C'est toi, mon enfant? Tu es venue, mon ange? Elle tend les mains pour me caresser le visage, le front, les joues, le nez. Elle part dans ses pensées et moi dans les miennes. Ne vous inquiétez pas, Blanche vit avec ma tante qui la protège depuis des années. Marie, Amélie, sourit. Ses yeux se troublent. Je savais que ma fille était protégée par quelqu'un, mais je ne savais pas par qui. Tu lui ressembles? Enfin, je crois. Héloïse quitte la chambre pour nous laisser toutes les deux. Un silence s'invite un long moment. J'observe la vieille dame. J'ai toujours sa main dans la mienne, sa main fine et froide. Pourquoi les vieux ont-ils toujours froid? Elle porte des vêtements propres et de qualité. Elle est coiffée, parfumée. Ses cheveux blancs sont attachés par une barrette noire. Marie, Amélie, a 81 ans d'après son acte de naissance. Je réalise que Blanche est morte prématurément, comme Colette. Ni l'une ni l'autre n'auront eu droit à du rab, et encore moins papa et maman. Les gens qui m'entourent meurent jeunes. Elle habite où, votre tante? Sa voix me sort de mes pensées. Guignon, c'est en Saône-et-Loire. Blanche l'a rencontrée à l'école primaire quand le cirque est passé par cette ville. Alors elle avait une amie? Oui. Soulagée, elle ferme les yeux. Deux larmes roulent sur ses joues creusées, glissent dans les sillons de sa peau. Je n'ose plus parler. Les larmes d'une personne âgée sont aussi insupportables que glaçantes. Quand les Français ont été libérés des Allemands, pour moi ça a été le contraire. L'ennemi a occupé mon territoire. J'ai rencontré Yevgeny à la fin de la guerre. Yevgeny? Soudkovski. Yevgeny Soudkovski. Mais tout le monde l'appelait Soudoro. Lorsqu'elle prononce son nom, elle me serre la main très fort. Je suis surprise par sa force. Elle, si frêle, qui n'a que la peau sur les os. Qu'est-ce qui attire le malheur? La première fois que je l'ai vu, il faisait des figures insensées, accrochées à une corde. Je l'ai trouvé beau, incroyablement doué et courageux. Le halo de lumière posé sur lui m'a trompé. La musique envoûtante qui accompagnait ses acrobaties aussi. Après le spectacle, nos regards se sont croisés et je me suis sentie désirée, flattée qu'un grand artiste comme lui s'intéresse à une fille comme moi. Il m'a suivie jusqu'à la maison pour savoir où j'habitais. J'étais avec deux copines, ça nous a fait rire. Puis il est revenu le lendemain et le surlendemain, jusqu'à ce que je réponde à ses avances. Je ne suis pas sûre de l'avoir aimé. Même au début, j'avais peur. Avoir peur de quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. J'avais 16 ans, lui 17. Je suis bouleversée par la manière dont elle s'exprime. Tout paraît si clair dans son esprit. Je vivais chez mes parents, reprend-elle. On se voyait le soir, il est resté plus d'un an dans la région avec son cirque. Annecy, Albertville, Chamonix et les environs. Il trouvait toujours un moyen de me rejoindre dans ma chambre au milieu de la nuit. Il n'avait pas le permis, mais conduisait quand même. À l'époque, je travaillais comme lingère, c'était fatigant, mais ça ne me déplaisait pas. J'aimais beaucoup mes collègues. Lui venait de perdre son père et devait s'occuper de tout. Avec lui, tout le monde marchait à la baguette. J'ai pensé me sauver, tout avouer à ma sœur et à mes parents, puis disparaître. Mais je n'ai rien dit. Et croyez-moi, le silence peut tuer. Soudoro a continué à me rejoindre chaque nuit. Il s'endormait quelques heures et repartait avant le lever du jour, comme un voleur. Je suis tombée enceinte. J'ai caché ma grossesse à mes parents et à mes proches. Le 7 mars 1946, j'ai accouché d'une petite fille dans ma chambre d'enfant. Je n'oublierai jamais la tête de mon père et de ma mère quand ils m'ont vue avec un nourrisson dans les bras au petit matin. J'avais accouché toute seule, en silence. Ce sont les pleurs de Blanche qui les ont réveillés. À ce moment-là, voyant que j'étais grosse, comme ils disaient, Soudoro avait disparu. Il m'avait traité de putain, me disant que l'enfant ne pouvait pas être de lui, que j'étais une chienne qui méritait d'être abandonnée. J'ai repris mon travail, j'ai placé Blanche chez ma sœur Jeanne, qui était nourrice. Je la récupérais chaque soir. Mes parents ont accepté de nous garder sous leur toit toutes les deux. À cette époque, j'étais presque heureuse, mais ça n'a pas duré. Allez savoir pourquoi. Il est revenu quand Blanche a eu 6 mois. Ma vie aurait été si différente s'il avait poursuivi son maudit chemin sans nous. Il a fait tout un cinéma à mes parents, leur demandant ma main, prétendant qu'il ne pouvait pas vivre sans nous, qu'il regrettait, qu'il me couvrirait d'or. Et ils nous ont donné à lui, l'enfant et moi. Nous avons été unis à Flumet, devant ma sœur et mes parents. Moi, je pensais que c'était bien pour ma petite d'avoir un père, de ne pas être regardée comme le rejeton d'une fille mère. Comment ai-je pu être aussi naïve? Le lendemain, Blanche et moi avons rejoint le cirque, les routes, le froid l'hiver, la chaleur accablante l'été, l'enfer sur terre. Soudoro a très vite fait de moi son esclave, n'hésitant jamais à me gifler ou à me rouer de coups comme les travailleurs et les animaux du chapiteau. J'avais peur pour la petite. Je détestais le voir tourner autour d'elle avec son air de bœuf qu'il tenait toujours à la main. Aujourd'hui encore, quand j'y pense, j'ai mal dans ma chair. Les coups qu'il me donnait avec ça, c'était des brûlures qui laissaient des marbrures sur la peau. Plus les mois passaient, plus il faisait régner la terreur autour de lui. Ça le rendait fier d'être respecté et craint. Avec le recul, je pense aussi qu'il s'est mis à me détester quand il a compris que je ne serais jamais une artiste. Il a essayé de me former, mais mon corps n'était pas apte. Tous ses espoirs projetés sur moi se sont révélés décevants, et il a commencé à me surnommer l'inutile. J'ai tenu 2 ans, 8 saisons, avant de me sauver avec Blanche. J'ai volé de l'argent dans la caisse et je suis montée dans le premier train. Nous étions à Reims et comme une idiote, une sombre idiote, au lieu de partir là où ils ne nous retrouveraient pas, je suis rentrée chez mes parents avec ma fille, les suppliant de nous garder. Le lendemain, Soudoro était là, pleurant à chaudes larmes devant mon père, me promettant de faire des efforts pour assurer notre confort, et mes parents ont cédé de nouveau. Ma sœur avait déménagé, et il m'arrive de penser que si elle avait été présente à mon retour, elle ne nous aurait pas laissé repartir avec lui. Alors que je leur avais montré mes marques, mon corps supplicié, mes parents m'ont demandé d'avoir du courage. Sur le chemin qui nous ramenait vers l'enfer, Soudoro a juré de me tuer à ma prochaine fuite et de me donner à bouffer à la lionne. Il a ajouté que je pouvais crever, mais que jamais il ne me laisserait l'enfant, qu'elle lui appartenait. Il avait des projets pour elle. Quel projet! J'aurais dû la protéger. Elle me réclame un verre d'eau que je lui sers, puis elle poursuit son effroyable récit. Au cirque, il y avait Natalia, une brave femme que Soudoro exhibait parce qu'elle avait une barbe. Elle m'a conseillé de partir avant qu'il ne soit trop tard. Elle sentait que mon mari déversait toute sa haine sur moi, que sa folie allait crescendo. Il faisait des heures de musculation devant un miroir, se développait physiquement. Il avait un couteau tatoué sur l'avant-bras. Ce poignard me terrorisait. Il en a fait tatouer d'autres au fil des années, mais ceux-là, je les ai vus bien plus tard. J'obéissais comme un animal dressé, mais tout était prétexte pour corriger l'inutile. Jusqu'au jour où il m'a vendue. Oui, vendue à un proxénète. Il est parti sans se retourner, sans entendre mes suppliques. Je suis restée enfermée dans une maison plusieurs mois. Une maison du côté de Strasbourg dont je me souviens de tout. Les matelas par terre dans des chambres grandes comme des cellules. Les draps, les sexes, le lavabo, les verrous, le savon de Marseille, l'eau de Cologne, les autres filles, les odeurs de corps et de cuisine. On nous faisait toutes dîner ensemble comme on fait manger les chiens dans les chenils, sans un regard. On nous donnait des cachets pour couper nos règles et sans doute pour qu'on ne tombe pas enceinte. Qu'est-ce qu'on nous a fait avaler ? Nous étions une dizaine de filles, jeunes. Certaines ne parlaient pas un mot de français. Les clients étaient des ouvriers de chantier, pas méchants, pas tordus. J'ai réussi à me sauver. Une nuit, le bourreau qui nous gardait était si saoul qu'il a oublié de verrouiller la porte principale. Jamais je n'ai couru aussi vite. J'avais un couteau sur moi. Je m'étais promis de me tuer s'il me retrouvait, plutôt que de retourner dans la maison du diable. Je ne suis pas allée à la police, alors que je venais d'être séquestrée et violée. Je ne pensais qu'à deux choses, fuir sous Doro et retrouver Blanche. Deux choses opposées, impossibles à réaliser. Dans mon désespoir, je savais que Natalia prenait soin de Blanche, mais j'ignorais si le monstre savait que j'avais échappé à mes geôliers. Je n'avais sur moi qu'une robe de putain, des ballerines et une couverture sur les épaules. Nous étions en plein hiver, il faisait très froid. J'ai été repérée par une femme dans la rue, une femme qui s'appelait Aline et qui travaillait pour l'armée du salut. Je n'ai rien dit, rien raconté de ma fuite, de mes mois de prostitution, mais j'ai accepté des vêtements chauds et un repas. J'ai prétendu vouloir rentrer chez mes parents, en Savoie. Où aurais-je pu trouver refuge ? On finit toujours par retourner chez soi. Elle m'a aidée en me mettant dans un train avec un billet, un sac de vivres et quelques francs. Je suis arrivée à Sallanches le 5 janvier 1949, à 20h. Mais je ne suis pas montée à Flumet chez mes parents, qui m'avaient trahie à deux reprises. Et j'ignorais où se trouvait ma sœur. J'ai frappé à la porte d'une ancienne collègue de la lingerie. Elle m'a accueillie, épouvantée par mon état. Elle m'a hébergée quelque temps. J'avais trop peur que Soudoro m'attende chez mes parents. Lui, ou le type auquel il m'avait vendue. Mon ami m'a supplié d'aller porter plainte pour récupérer ma fille, mais je n'ai jamais osé. Y aller aurait été signer mon arrêt de mort. J'ai trouvé un emploi dans une librairie-papeterie du centre-ville, dans la réserve. Je ne voulais pas vivre ailleurs que dans des caves ou des réserves. Je voulais que personne ne me voie. Je n'adressais la parole à mes nouveaux collègues que pour le travail. Je mentais à tout le monde. Je prétendais être orpheline, originaire du Mans, célibataire et sans enfant. Si j'avais pu disparaître, je serais devenue invisible. Je déballais les cartons de livres et de cahiers, les rangeais, procédais au réassort et aux commandes. Je logeais dans une petite chambre juste à côté de la librairie. Je payais mon loyer à mon propriétaire rubis sur l'ongle et en espèces. Pas de retard, pas de dette. J'ai appris à me fondre dans la masse, à raser les murs. J'avais fait promettre à mon ancienne collègue et amie de ne jamais parler de moi. Elle a tenu parole. Les années ont passé, je me suis littéralement noyée dans les livres, dans les histoires des autres pour ne jamais penser à la mienne. Dès que je fermais les yeux, je voyais mon enfant. Je mourrais du manque de Blanche. Où était-elle ? Que faisait-elle ? Subissait-elle la violence de son père ? Ou l'épargnait-il ? Il ne s'était jamais montré brutal avec elle, mais elle était encore si petite lorsqu'il me l'avait enlevée. Je savais, je sentais que Soudoro lui avait dit que j'étais morte. 10 ans ont passé avant que je retourne chez mes parents. Alors que je vivais à 20 kilomètres de chez eux. Je ne sortais pas. Je parcourais le chemin entre la librairie et ma chambre tête baissée, sans jamais faire de détour. Je ne fréquentais personne, et à part la lecture, je n'avais aucun loisir. Je vivais recluse, terrorisée à l'idée qu'il me retrouve. J'ai fini par me dire qu'il fallait que j'attende que Blanche ait grandi pour la récupérer. Pour essayer de m'enfuir avec elle quelque part à l'étranger. Me suivrait-elle ? Pendant ces années de solitude, le diable avait eu tout le temps de s'immiscer dans mon esprit. Je me réveillais de plus en plus souvent, en nage, en pleine nuit, avec cette voix terrible qui me disait « Ta fille est comme lui, Blanche et Soudreau ne font qu'un. Jamais elle ne t'aimera. » Je voyais ma petite, dont les traits déformés étaient ceux de son père. Le 7 mars 1958, le jour de ses 12 ans, je suis montée à Flumet. Mes parents me pensaient morte dans un accident de voiture. C'est ce que Soudreau leur avait fait croire à sa dernière visite. Mais avant, il était venu régulièrement pour me traquer. Il les menaçait, mais ils sentaient qu'ils ne mentaient pas lorsqu'ils affirmaient ne pas savoir où je me trouvais. Ensuite, il a envoyé des sbires pour vérifier. 2 mois avant que je remonte chez eux, ce monstre était revenu à Flumet pour les papiers d'identité de Blanche. Il avait dû passer par son lieu de naissance pour récupérer une fiche d'état civil. La petite n'était pas avec lui. Il avait raconté à mes parents qu'un matin j'étais revenue au cirque et que quelque temps plus tard je m'étais tuée sur une route, que j'étais enterrée dans les Ardennes, mais qu'il ne se souvenait plus exactement du nom du village. Je sors de mon sac la carte d'identité de sa fille. Tenez, vous pouvez la garder. Marie, Amélie, me dévisage un moment puis me désigne un étui. Pouvez-vous me donner mes lunettes, s'il vous plaît ? Les mains tremblantes, elle retire celles qu'elle porte et met celles que je lui tends. Elle découvre le visage de sa fille à l'âge de 12 ans. Elle rapproche le portrait de ses yeux pour le scruter, puis l'embrasse. Ses larmes coulent à nouveau. Je remarque des mouchoirs en papier sur la table de nuit et lui en donne plusieurs. Elle essuie doucement son visage comme si elle le caressait. Ensuite, obsessionnellement, elle lit et relit à voix haute comme si elle cherchait une signification cachée. Préfecture de la Savoie, carte d'identité délivrée aux citoyens français numéro 98761, prénom Blanche, née le 7 mars 1946 à Flumet, département de Savoie, domicile Flumet, signalement, taille 1m43, cheveux châtains, yeux marrons, nez moyen, forme générale du visage, ovale, teint, signe particulier, empreinte digitale, signature du titulaire à Chambéry le 3 janvier 1958, le préfet. Vous avez vu, elle a rayé son nom. Elle a rayé le nom de son père. Vous avez vu, elle ne lui ressemblait pas. Elle ne lui a jamais ressemblé. Avez-vous revu votre fille ?
Je l'ai entendue, me répond-elle dans un murmure. Elle m'a parlé.
Épuisée, elle pose la carte d'identité contre son cœur et ferme les yeux. Je réalise que je suis dans cette chambre depuis plus de 2 heures. Je lui murmure à l'oreille « Je reviendrai ». Elle fait oui de la tête et je répète plusieurs fois « Je reviendrai, c'est promis, promis ». Avant de partir, je laisse un mot à l'accueil pour Héloïse, ainsi que mon numéro de téléphone. En sortant de l'établissement, je me confonds en excuses auprès du chauffeur qui m'a attendu 2 heures.
« Vous inquiétez pas, me répond-il, j'ai écouté la radio ».
Il m'accompagne jusqu'à une boutique de téléphonie à l'intérieur d'un centre commercial où une personne de moins de 20 ans retire la puce de mon téléphone en un temps record.
« Il est mort, madame », dit-il en la glissant dans un modèle dernier cri.
Décidément.
« C'est le smartphone le plus fin du monde. Le vôtre était has-been. On en est déjà à la 4e génération. »
« D'accord, merci. »«
Vous voulez une assurance au cas où vous fracasseriez aussi celui-là ? »
Une voix m'annonce que j'ai 7 messages.
Samedi, à 23h10. C'est Pierre, j'ai été un peu dur avec toi, je te demande pardon. À bientôt, je t'embrasse. Message effacé. Dimanche, à 15h23. Agnès, c'est Cornelia, je viens aux nouvelles. Rien de particulier à Paris, tout va bien à la maison. J'ai reçu un message de Nana. Et toi, comment vas-tu? J'aimerais bien entendre le son de ta voix quand même. Message effacé. Dimanche à 23h12. Ouais, maman, c'est moi, c'était juste pour te faire des gros bisous. Je t'aime. Message sauvegardé. Lundi à 8h40. Coucou Agnès, c'est Nathalie. Rappelle-moi pour me dire ce que t'as trouvé à Flumet, j'ai trop hâte. Je bois un café au petit bar avant d'aller au journal, je suis avec Hervé et Adèle. Rappelle-nous, bisous. Message effacé. Lundi à 11h10. Bonjour Madame Duguin, je suis Laurence Davis, je travaille pour le festival de Beverly Wood. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années à Los Angeles. Nous aimerions faire une rétrospective de vos films et que vous soyez notre invité d'honneur. Et bien sûr en présence de quelques-uns de vos comédiens. Notre festival a lieu chaque année au mois de mai, vous pouvez me rappeler à ce numéro pour échanger. Merci beaucoup. Message effacé. Lundi à 14h08. Bonjour Madame Duguin, c'est le capitaine Rampin, Cyril Rampin. Je viens de recevoir le permis d'inhumer de votre tante. Il faudrait passer à la gendarmerie de Gognon. Rappelez-moi. Merci. Message sauvegardé. Lundi à 15h. Ouais Agnès, c'est Liès, t'es où? Je suis rentrée à l'hôtel et t'es pas là. Je suis passée chez le toubib, il t'a pas vu. Ah mais merde, c'est vrai, t'as plus de téléphone. Message effacé. Lundi à 15h50. Ouais Agnès, c'est encore Liès, qu'est-ce que tu fous? Message effacé.